France Inter.
Bonjour et bienvenue dans cette troisième édition de Mousse. C'est une émission qui a démarré pendant les dernières vacances de Noël. Et à l'époque, c'était un petit peu un test pour savoir si j'étais suffisamment compétent pour présenter une émission de jeu. Et apparemment, oui, puisqu'on m'a demandé de continuer tout l'été. Donc chaque semaine cet été, le samedi, de 11h à midi, vous entendrez ma voix. Et sincèrement, je vous envie. Parce que moi, pour entendre ma voix, je suis obligé de parler. Alors que vous avez rien besoin de faire. Vous avez juste à écouter. C'est du plaisir brut, de la volupté gratuite, de rien. Cette émission, donc, elle s'appelle Mousse. Alors, j'entends parfois, mais pourquoi ton émission, elle s'appelle-t-elle Mousse, David? Eh bien, si elle s'appelle Mousse, c'est que c'est un jeu radiophonique dans lequel il va y avoir de la mousse. Et par mousse, on entend non seulement la connaissance, mais aussi le fait d'étaler cette connaissance en public de façon à briller et pourquoi pas à séduire les gens qu'on a envie de caresser. Mousse, c'est donc un jeu dans lequel quatre candidats organisés en deux binômes doivent répondre à des questions qui n'ont qu'une seule bonne réponse, l'idée étant que si les candidats ont la bonne réponse, ils produisent davantage de mousse que s'ils ont la mauvaise réponse. C'est un peu comme le Trivial Poursuite, mais en beaucoup plus fun, et surtout c'est un Trivial Poursuite dans lequel il y a un maître du jeu. Ce maître du jeu, c'est moi, je suis le maître de la mousse, le maître moussier. Alors quand vous m'entendez parler comme ça, vous vous dites, mon Dieu, que cette personne a l'air douce et bienveillante, je suis entre de bonnes mains. Eh bien, pas du tout. Je n'ai pas une once de bienveillance en moi et j'ai créé Mousse à mon image. L'idée de Mousse, c'est vraiment d'écraser vos adversaires, de les humilier par votre supériorité. Et cette humiliation est bien sûr publique, puisqu'elle se fait dans les oreilles des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui nous écoutent. Merci beaucoup.
France Inter, Mousse, David Castello-Lopez.
Alors aujourd'hui dans Mousse, je reçois deux équipes de deux candidats qui vont s'affronter. À ma gauche, deux hommes, Éloi Spindler et Vincent Delerme, un cuisinier et un musicien. Éloi, vous formez un binôme avec Vincent Delerme alors que vous êtes beaucoup moins connu que lui. À quel point est-ce que vous êtes saucé?
Très heureux. Le premier souvenir que j'ai de Vincent, c'est la chanson « Les bobos » de Renaud. Et mes parents me l'écoutaient tout le temps. Donc
Je ne touche aucun droit là-dessus.
C'est très dommage.
C'est merveilleux. Vincent, moi je fais des blagues comme ça, mais si je fais des blagues, c'est surtout que moi-même je suis saucé d'être à la même table que vous. Vous êtes un de mes héros. J'ose à peine vous regarder dans les yeux parce que ça me brûle, voyez. Donc merci, merci beaucoup d'être là.
Ne pas vous foutre de ma gueule, trop.
Non, mais c'est la vérité totale. Merci aussi à vous, Éloi, mais juste un petit peu moins. De l'autre côté, on a Alexis Le Rossignol et Lison Daniel, deux personnes spécialistes des blagues. Alexis, on ne se connaissait pas jusqu'à il y a très peu de temps et on s'est vu trois fois en un mois et on a décidé d'un commun accord qu'on était candidat à l'amitié.
Oui, c'est une bromance qui vient de commencer.
Voilà, donc j'espère simplement que vous n'allez pas me décevoir aujourd'hui, ce serait triste. Lison, Daniel.
Bonjour.
Bonjour, on se parle sur Instagram depuis 1961.
C'est vrai.
Mais on s'est, on pourrait dire, pratiquement jamais vu en vrai.
On s'est croisé dans cette épicerie bio,
il n'y a pas si
longtemps.
Une épicerie bio très décevante.
Très décevante.
Voilà, parce que c'est d'un quartier, il n'y en a pas beaucoup. Et puis tout à coup, il y a une épicerie bio. Alors que nous, comme on est bobos, on fait « ouais, il y a une épicerie bio ». Et puis c'est pas très bon. Et on est déçus. C'est un espoir déçu. Je suis donc vraiment super content que vous soyez tous là. Alors, chaque épisode de Mousse sera organisé autour d'un thème. Et aujourd'hui, ce thème, c'est... l'argent. Très vite, Éloi, dites-moi, à quel point est-ce que vous aimez l'argent?
Je vois l'argent comme un outil, donc, et j'aime les outils.
D'accord.
On est beaucoup autour de, du corps.
C'est une belle pirouette. C'est vrai que qui n'aime pas l'argent pour un outil. Cette émission sur l'argent, elle va être divisée en trois manches. Tout d'abord, la monnaie. Ensuite, les choses très chères. Et troisièmement, les impôts. Je vais vous poser quatre questions pour chacune de ces manches. Et quand j'ai fini de poser la question, je dis bien quand j'ai fini de poser la question et que vous pensez que vous avez la bonne réponse, vous pouvez appuyer sur le buzzer qui est devant vous. Est-ce qu'on peut tester les buzzers, s'il vous plaît, d'abord? Voilà, alors ça, c'est le buzzer de Alexis Le Rossignol et Lison Daniel. Et le vôtre maintenant? Voilà, alors est-ce qu'on peut... Ils sont légèrement différents. On pourrait dire qu'ils ne sont pas assez différents, mais c'est une limitation technique de ce studio. On ne peut pas faire qu'ils soient plus différents que ça. Bah donc peut-être y avoir des confusions. Mais voilà, on va être attentif. Il y en a un, si vous voulez, qui est un peu plus... Vous avez dit, Vincent?
On peut doubler.
Vous pouvez doubler. Vous avez dit, Vincent, tout à l'heure que c'était un peu plus robot que l'autre.
J'ai dit science-fiction même.
Science-fiction. On peut le réentendre un petit peu?
Voilà. Ah, on peut pas doubler.
Voilà, on peut pas doubler. Question de budge. Donc, merci beaucoup pour ces tests. Le thème, on commence donc par la manche numéro 1 de cette édition de Mousse-Mousse consacrée à l'argent. Le thème de cette manche, c'est la monnaie. Est-ce que vous êtes tous prêts?
Oui. Oui,
à fond.
Très bien, ça fait plaisir. Question numéro 1. Quelle est la pièce de monnaie ayant la valeur faciale la plus élevée jamais éditée en France? La valeur faciale d'une pièce, c'est le numéro qui est marqué sur la pièce. C'est une pièce de 2 euros, c'est 2. Donc, quelle est la pièce de monnaie ayant la valeur faciale la plus élevée jamais éditée en France? Est-ce que c'est 1, une pièce de 10 euros, 2, une pièce de 200 euros, ou 3, une pièce de 10 000 euros? Je vous écoute.
Essayons 10 000 euros.
C'est une pièce de 10 000 euros. Excellente réponse de Éloi Spindler. Vous pouvez aller à la Monnaie de Paris et demander une pièce de 10 000 euros. Et vous pouvez même, en théorie, payer votre kebab avec, même si le kebabier va peut-être vous mépriser un peu parce qu'il n'a pas la monnaie sur 10 000. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible. Il y a des pièces aussi de 5 000, de 1 000, de 200. Alors, elles sont souvent en édition limitée, mais c'est possible. Excellente réponse. Vous marquez un point. Merci beaucoup. Question numéro 2. Combien ça coûte de fabriquer une pièce de 1 cent, 1 centime de dollar? Est-ce que ça coûte, réponse 1, 0,01 cent, réponse 2, 4 cents, réponse 3, 2 dollars?
4 centimes?
Ça coûte exactement 4 centimes, excellente réponse de Alexis Le Rossignol. Et en Europe, c'est pareil. Fabriquer 1 centime d'euro, ça coûte plus qu'un centime d'euro. Ça coûte entre 1,5 et 4,5 centimes d'euro. C'est une des raisons qui fait qu'il y a un moment, on va probablement arrêter d'avoir des pièces de 1 centime d'euro qui sont un poids pour la société plus qu'autre chose. Donc on a un point partout, égalité totale. Question numéro 3. Quelle est la carte bancaire la plus classe du monde? Est-ce que c'est réponse 1, la Mastercard Diamond Infinity? Est-ce que c'est réponse 2, la Visa Deep Crystal? Ou réponse 3, l'American Express Centurion?
L'American Express Centurion.
L'American Express Centurion. On voit le restaurateur qui est confronté à des centurions au quotidien. Oui, la mec Centurion, c'est les deux autres elles existent même pas.
Hein. Ah d'accord. Okay. Et on sait à quoi elle ressemble, cette centurion?
Elle est très rigide déjà. C'est la rigidité de l'argent et puis je crois qu'elle est vraiment noire. Il y a très peu de détails dessus. C'est presque un monochrome. Quoi.
D'accord.
C'est très très beau à voir. J'ai l'American Express Centurion, faut savoir, vous pouvez pas la demander.
On vous l'offre.
American Express vous appelle, vous dites, écoutez, vous êtes tellement riche qu'on a fait quelque chose pour vous, mais vous pouvez pas décider de l'avoir vous-même. Ça coûte 5000 euros par an. D'avoir la mec.
Et ça sert à quoi?
Alors ça sert. Alors déjà le plafond est très élevé. On peut payer 1 milliard. Comme ça, voilà. Et par ailleurs, ça donne accès à des petits trucs à côté. Genre, on peut rencontrer des gens connus. Voilà. Ah. Peut-être qu'American Express va vous appeler un jour. Est-ce que ça vous dit de participer à un partenariat pour aller voir des gens riches une fois par an?
Les gens riches m'adorent.
Ouais, ou des places de concert.
Ouais, ou des places de concert. Merci beaucoup. Bravo. On est à 2-1 pour l'équipe.
C'est vrai que ça
repose, la connaissance repose sur les épaules d'Éloi Spindler jusqu'à présent. La question 4, c'est la dernière question de la manche et c'est un blind test. Chaque manche terminera par un blind test. Je vais vous faire écouter un son. Ce son, c'est moi qui laisse tomber des pièces de monnaie sur une table. Oh. Et il faut que vous deviniez quelle somme est-ce que j'ai laissé tomber sur la table. C'est une sorte de juste prix. Si vous êtes tous au-dessus, on recommence. Mais voilà, c'est parti pour le son.
€4,67.
Ok. Éloi ?
€2,40, moi, je dirais.
Vous êtes tous les deux en dessous, mais Lison Daniel est beaucoup plus proche. Il s'agit de la somme de €9,80.
Ah, oh.
Voilà. Mais vous, ah. Étiez...
Les pièces étaient légères.
Les pièces étaient légères, il y en avait beaucoup.
C'était mal jeté, j'ai trouvé.
Ouais. Je suis assez d'accord.
Je vous en prie, on vient de se connaître. Que je jette mal les pièces. C'est pas très sympa. On en est à deux points partout, je crois. Hein, c'est ça, 2-2. Bravo, excellente réponse. C'est la fin de cette première manche, 2 points partout. Et c'est l'heure maintenant d'écouter un extrait de la playlist de France Inter. Nous confions la lourde responsabilité de la machine à mousse à Yoa, en espérant qu'elle en soit digne.
Oh oh, je dois tout recommencer. Oh oh, crois j'ai capitulé. Et accroche-toi comme on s'accroche à son enfance. C'est bizarre de rêver sans jamais y croire. Pourquoi la vie n'est remplie que d'imprévus inattendus? Toujours elle vise jamais où tu l'avais vu. Quelle étais-tu? Pourquoi la vie n'est remplie que d'imprévus inattendus? Toujours elle vise jamais où tu l'avais vu. Quelle étais-tu? Pourquoi la vie n'est remplie que d'imprévus inattendus? Toujours
c'était Sad Girl de Yoa sur France Inter, un titre extrait de La Favorite, son tout premier album sorti en janvier 2025. Yoa a reçu la victoire de la musique de la révélation scène de l'année. Pour les intéressés, elle sera en concert à la salle Playel en 2026. Yoa, une artiste France Inter. Il n'y a pas que Yoa dans l'actualité, il y a aussi vous tous. Vincent Delerme, vous venez tout juste de sortir votre 8e album, La Fresque. Vous serez en octobre et en novembre à la Cigale à Paris, mais c'est déjà tout complet, ça rase.
Oui, l'automne c'est complet.
Voilà, mais du coup, nouvelle date toujours à la Cigale, ouais,
très 10, malin.
Du 10 au 14 mars 2026. Ouais. J'ai une petite anecdote. Une fois, vous m'avez suivi sur Instagram, j'ai fait une capture d'écran de la notification qui disait que vous me suiviez, et je l'ai envoyé à mes amis pour me la péter, et le lendemain, je suis retourné sur votre profil, et vous me suiviez plus.
Ah, j'ai eu le même truc, moi, avec Pierre Ninet. Voilà. Il m'a suivi pendant une demi-heure.
Oh, mais, ouais.
Mais c'est fou.
Petite tristesse. Donc, depuis, j'essaye d'être à nouveau digne de vous. J'espère que peut-être que ça va.
Je pense que ça peut s'arranger.
Ça peut s'arranger, d'accord.
Ouais, j'ai quand même bon espoir.
On en parle après l'émission. Éloi Spindler, vous avez toujours vos deux restaurants à Paris, Colère et Orgueil. Je suis allé aux deux, et plusieurs fois, au moins à l'un d'eux. Et c'était à chaque fois, non seulement des repas délicieux, mais aussi des repas respectueux. Des repas respectueux de la nature et des gens. Et ça fait plaisir. Le goût est meilleur quand ça respecte. Vous voyez ?
Je suis assez d'accord.
Voilà. Vous allez ouvrir un troisième restaurant.
Exactement, à la rentrée.
Qui s'appelle Envie.
C'est...
Faut pas le dire.
Faut pas le dire, mais bon, il y a, de toute façon.
C'est pas grave, c'est pas grave.
Et le thème change, il n'y aura plus de respect.
On envie l'époque précédente.
Oui, il y a respect dans la marque.
Est-ce que c'est pas, c'est un petit peu rigolo de faire des restaurants qui sont tous sur des péchés, donc des gros défauts, et d'avoir, vous êtes vous-même aussi vertueux?
Bah, le propre du péché, c'est que tout le monde le ressent un petit peu dans sa vie à un moment donné. Donc, oui. L'idée, c'est de montrer qu'il y a du bon et du moins bon dans chacun.
Ouais, en fait, si tu n'as pas 7 restos, bah, tu auras un petit peu failli dans ta mission.
Oui, totalement.
Voilà.
On te voit venir avec les
sauf si j'ai une Amex Centurion, là, ça va. Là, ça ira.
Chaîne YouTube aussi.
Hein, tout à fait.
Avec plein de vidéos très très bien dessus. C'est parti, c'est le moment du jingle, je crois.
Mousse Mousse, David Castello-Lopez sur France Inter.
C'est à présent l'heure de la manche numéro 2 de cette édition de Mousse Mousse consacrée à l'argent avec un nouveau thème, les choses très chères. Question numéro 5 sur le thème des choses très chères. Quel est l'objet le plus cher que vous puissiez acheter en tant que particulier sur la Terre? Est-ce que c'est réponse 1, un diamant? Est-ce que c'est réponse 2, un tableau? Ou est-ce que c'est réponse 3, un bateau?
Bateau.
Un bateau.
C'est un bateau, excellente réponse.
C'est pas moi qui bossais ? Non,
non, non, vraiment, je l'ai bien entendu.
Non, mais j'ai buzzé, mais je voulais pas du tout dire cette réponse-là.
Voilà.
Non, mais c'est bien.
Vous allez dire
battu. Mais c'est ça, vous partagez la tâche. Vincent, vous buzzez. Éloi, vous répondez. Tout à fait. Le diamant le plus cher du monde, c'est le Pink Star vendu en 2017 pour 63 millions d'euros.
Oui, donc voilà.
C'est cher. Par rapport
plus que ça. La peinture la plus chère du monde, peut-être que vous savez ce que c'est.
Ah, c'était pas
c'est un Caravage, il me semble.
Non, c'est un Léonard de Vinci. Salvatore Mundi, 450 millions d'euros en 2017. Mais il y a des yachts qui coûtent plus de 1,5 milliard, comme par exemple l'Azam. Il y a ce yacht, c'est Azam, qui a coûté 600 millions, qui appartient à un monsieur saoudien. Souvent, les yachts de cet acabit appartiennent à des messieurs saoudiens. Et fun fact, si jamais vous achetez un yacht, il faut savoir que pour entretenir ce yacht, ça vous coûtera en moyenne 10% du prix total de ce yacht
par an. Ça va.
Par an. Mais c'est-à-dire 600 millions, c'est 60 millions par an pour juste.
Mais je crois qu'on peut défiscaliser quand même.
Une partie.
Et pour faire de l'essence, il faut traverser la Méditerranée, c'est moins cher.
C'est ça.
Sauf quand t'es saoudien. T'es sûr.
C'est vrai.
C'est pour ça qu'ils en achètent.
Finalement. C'est énormément. voilà. Personnellement, je trouve ça exagéré de bateaux à 600 millions, mais ce n'est que mon avis. Vincent Delerme, c'est quoi la chose.
Oh là, j'ai peur de la question.
C'est quoi la chose la plus chère que vous possédez hors immobilier?
Je sais pas, peut-être une photo de Marilyn qui est, je crois que, mais je saurais même pas dire le nom du photographe, mais je sais qu'elle a de la valeur.
Ouais. Voilà.
Moi, j'ai des photos de Vincent Delerme.
Ouais, ça vaut hyper cher.
Des photos prises par lui.
Des photos prises par Vincent Delerme et offertes à moi.
Oh, et dédicacées tout ça.
Mais ça, c'est pas très cher.
Ouais.
Faut me le dire, ça.
Un cadeau.
C'est un cadeau.
En tout cas, si jamais vous êtes dans le besoin, vous pouvez vendre la photo qu'il vous a offerte.
Sympa, en tout
cas. Ça va l'entre-soi, là.
Franchement, j'adore cette émission.
Question numéro 6. On y va. Qui a lancé la mode de la bague de fiançailles en diamant? Est-ce que c'est 1. L'Empire romain? Est-ce que c'est 2. Emmanuel Macron? Ou est-ce que c'est 3. Une campagne publicitaire de la société Debers?
La troisième.
La troisième, excellente réponse de Lison Daniel. C'est une invention marketing, totalement marketing, de la société De Beers. C'est De Beers qui a décrété que diamant égale amour. Voilà, avant, c'est pas le cas.
En fait, tout ce truc, on ne connaît vraiment pas la réponse. Il n'y a eu que des bonnes réponses depuis le début. Les gens vont penser que c'est truqué. Vrai.
Mais je pense que les gens utilisent leur intuition, ce qui est une méthode tout à fait valable. Oui, vous ne l'aviez pas au cœur de vous-même, mais vous vous êtes douté que c'était ça.
Je trouve ça bizarre, enfin, je trouve ça vexant que tu me dises ça, je trouve que je le savais. Je n'ai pas envie de m'étaler là tout de suite, mais je savais.
Voilà, j'avais cette information. Ouais. C'est comme ça. Non, c'est assez fou ce truc. Le diamant, c'était un truc, c'était une pierre pas beaucoup plus précieuse que les autres, mais tout à coup, ils ont fait non, on va dire que c'est super précieux. Et tout le monde a gobé, tout le monde maintenant veut des bagues en fiançailles. Des bagues en diamant, pardon. Question numéro 7. Peut-on fabriquer de l'or? Réponse 1, oui. Réponse 2, non. Éloi Spinel.
Oui.
Oui, on peut fabriquer de l'or. Alors, il y a un tout petit twist quand même. Peut-être vous le connaissez, vous avez l'air de faire oui de la tête.
Écoutez, il n'y a pas longtemps, mais je ne me rappelle plus. On a réussi à transformer du plomb en or, mais ça a duré à peine un centième de seconde ou quelque chose comme ça, non?
Oui, en fait, c'est ça, c'est possible. C'est juste qu'on en produit des quantités toutes petites et que ça coûte beaucoup plus cher de le fabriquer que juste d'aller creuser des trous et de le prendre dans la terre.
C'est comme les centimes.
C'est pas du tout ce que j'ai dit. Non, et peut-être que ça marche que pour le plomb en or.
Oui, peut-être que c'est ça. Moi-même, je n'ai pas suffisamment de connaissances pour vous opposer quoi que ce soit, donc je considère que vous avez raison. Voilà, il faut un accélérateur de particules aussi, donc ça c'est un petit peu, c'est pas un truc qui est tout à fait disponible à tous les instants. On finit cette manche avec un nouveau blind test très très quali. Je vais vous faire écouter un son, et il va falloir deviner de quoi il s'agit. On y va. Réponse de Lison Daniel, un chien de milliardaire, ce n'est
un chien très cher.
Un chien très cher. Exactement, c'est la bonne réponse de Lison Daniel.
J'essaie de réfléchir comme David Castellolo.
Exactement, en fait. On est dans la manche chose chère, donc c'est un chien très cher. C'est un mastif du Tibet, ok. Un mastif du Tibet. Voilà, on sent bien le mastif du Tibet. C'est un chien, alors c'était pas spécifiquement celui-ci, mais c'est un chien de cette race qui aurait été vendu 2 millions d'euros en Chine en 2014. C'est vrai que son aboiement, il est majestueux.
Bah, par rapport à un chien pas cher, oui.
C'est différent. Après, est-ce que ça vaut une telle différence de prix?
S'il
est-ce que c'est un aboiement à 2 millions, je suis pas
sûr. C'est des chiens qui sont énormes.
Ouais, ils sont titanesques. On dirait des sortes de.
Il connaît tout celui-là.
Il a plein d'infos. C'est fou. Et c'est, non, c'est vraiment très bien.
Il a préparé ce qu'on dit là.
C'est fou. Parce qu'on dirait vraiment pas comme ça.
Le cuisinier là. Voilà. Puis quand les cuisiniers sont cultivés,
il y a beaucoup de mépris.
Non, c'est vrai qu'il y a pas mal de mépris. Non, non, c'est triste, c'est triste. On fait le point sur les points. C'est l'heure de faire le point sur les points. Et on va me dire dans les oreilles, parce que moi, je n'ai pas du tout suivi combien. 4-4, c'est très serré, on le dit dans les oreilles. Et on aime bien ça, parce que ça met de l'enjeu.
J'ai trouvé tellement de bonnes réponses, moi.
Ouais. c'est vrai que vous êtes. Non, mais vous avez participé parce que vous avez pris la main en
oui,
travaillant
oui,
sur le
buzzer.
Buzzer. Non, vrai. Mais ça a été un travail d'équipe à ce moment-là. Non, c'est vrai, on aime bien quand il y a de l'enjeu, donc on aime bien quand c'est serré, on n'aime pas quand les gens écrasent. Non. Autres, sinon, c'est pas bien. Ça va bientôt être l'heure de la troisième et dernière manche de Mousse-Mousse, qui oppose aujourd'hui deux binômes. D'un côté, Alexis Le Rossignol et Lison Daniel, de l'autre, Vincent Delerme et Éloi Spindler. La compétition reprend juste après la femme. C'était Nouvelle-Orléans de La Femme sur France Inter, morceau tiré de leur troisième album Paradigme, paru en 2021. Et si jamais vous êtes du côté de La Rochelle le 13 juillet, ce ne sera pas mon cas, mais peut-être que ce sera le cas de quelqu'un autour de la table. Mais ben voilà. Bon, bah, si jamais c'est votre cas, et bien sachez que La Femme se produira au Francofolies. Alors avant de lancer la troisième et dernière manche de Mousse-Mousse, je me tourne vers le binôme Lison Daniel et Alexis Le Rossignol. Lison, on vous a entendu tous les mercredis à 8h55 dans la matinale de France Inter avec vos chroniques aussi piquantes que bien vues. Ce n'est pas moi qui ai écrit cette phrase, mais est-ce que vous êtes d'accord vous-même pour dire que vos chroniques sont à la fois piquantes et bien vues ?
Pas tellement.
Non,
mais,
ni l'un ni l'autre.
Mais ça m'a bien qui est-ce qui a écrit ça ?
Quelqu'un qui a préparé ce passage. Super. Mais alors c'est quoi les adjectifs que vous utiliseriez pour parler de vos propres chroniques ? C'est pas facile.
Oh là, c'est dur ça.
À quel point est-ce que vous êtes super ?
Comme ça, je dirais. Pas très radiophonique, mais... je sais pas, elles sont... toutes les semaines, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire encore ?
Oui.
Oui, parce que parfois je joue un micro, parfois je fais... C'est vraiment absurde. Donc, peut-être un peu dada.
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 Dada, mais grand public.
Dada, grand public.
Ouais, parce
oui,
que les,
parce
les...
que dada, c'est pas grand public du tout. Hein.
Enfin, okay. Les dada, je sais pas, moi, ça me fascinait peut-être un court moment, mais après, ça a été un peu ennuyeux. Quoi,
non, alors
pas.
C'est peut-être un petit peu présomptueux de dire dada.
Ouais, je crois que c'est beaucoup mieux que dada, en fait. Chronique, personnellement, c'est mon avis, en fait. Hein. Ouais.
Okay.
Alexis. Vous
dada êtes... petit public me conseille.
Voilà. Mais on me compare souvent à toi.
Ah bon ?
Mais ouais. Oui, mais parce que
vous pensez à Alexis Rossignol, je sais pas.
Mais ah parce bon que vous êtes haut du panier. Mais vous êtes pas... chic, vous êtes littéraire, vous êtes raffiné. Mmh. Vous n'êtes pas dans la lourdeur, vous savez ça. Tous
les
dire
qu'on remplit pas beaucoup les salles. Ça.
Moi, ça va.
Moi, j'ai pas de spectacle, donc.
Oui, voilà.
Oui, voilà.
Voilà, c'est ça. Donc en fait,
toujours.
Alexis, vous êtes en tournée avec votre spectacle dans toute la France, oui. Mais surtout cet été, vous refaites pour la cinquième année consécutive le Braise Comedy Tour. Oui. C'est une tournée humoristique à bord d'un bus. À couchette
un vieux
de
bus.
1984,
ouais.
En deux phrases, est-ce que vous pouvez dire quelque chose de plus clair que ce que je viens de dire ?
On joue dans des endroits où il n'y a jamais eu d'humour et de spectacle, dans des coins retirés de la Bretagne.
Mm-hmm.
Voilà.
Ouais.
Et on fait venir des centaines de personnes qui viennent avec leurs chaises de camping, et on crée une scène éphémère le temps d'une soirée. Et le lendemain, on va ailleurs.
Et le background, le backdrop de ça, c'est le bus, c'est ça ?
C'est le confinement à la base. Ah oui, non, la scénographie.
Oui, j'ai utilisé un mot anglais que je maîtrise moi-même pas très bien. Donc...
C'est le bus, on joue devant le bus, ouais. Et après on y dort.
Ouais.
Et en fait, tout ça est né du confinement, où on ne pouvait pas rejouer dans les salles, et on s'est dit, on va aller jouer en extérieur, et on va aller au plus près des gens.
Vous avez aussi un nouveau format YouTube qui s'appelle Vroom Vroom. Vous discutez avec des gens dans une voiture, mais pas n'importe quelle voiture, la voiture de leur enfance. Et le prochain invité,
c'est David Castello.
Ben, voilà, c'est moi. C'est un petit peu consanguin, tout ça. Hein, voilà, on s'invite mutuellement dans les émissions.
Mais c'est quelle voiture alors ?
Alors, c'est
magnifique.
Une vieille BMW du milieu des années 70 qui s'appelle la BMW 3 litres SI, et elle était pratiquement introuvable.
Ouais,
il y en avait 4
en France.
Je crois
qu'il y en avait, ouais, très très.
Et c'était un choc, mais genre, tu revois la voiture que t'as pas vue depuis que t'as 11 ans, et vraiment, vraiment, c'était un truc hyper...
On vous a vu toucher, David.
Ah, mais j'étais hyper touché, quoi.
Ça y est, c'est tourné.
Ouais, c'est tourné.
C'est tourné,
ouais.
C'est tourné. Et ces petits trucs que t'avais oubliés, ces petits détails. Oh, et le cendrier, il était comme ça. C'est que tu te souvenais vaguement que c'était cette voiture, de la couleur. Mais tous ces micro-détails, et ça, c'est un lien direct avec le fin fond de ton enfance. Et c'était un peu... c'était assez fort, quoi.
C'était
donc
cool.
Merci, ouais. Alexis.
Le 309 Chorus, si ça vous intéresse.
Ouais, c'est bien ça.
309 Chorus.
Ouais. C'était une série limitée de 309.
Ouais, ouais.
Ouais. Très jolie.
Parce que les 309, bon, c'est ok, mais les séries limitées étaient.
N'est-ce pas ?
Moi, c'était une Twingo Violette, ça.
Twingo Violette.
Ouais.
Twingo Violette. C'est une voiture qui a marqué son époque aussi.
Éloi.
Et moi, je crois que c'était une Xara.
Une Xara.
Avant que ça devienne Picasso. C'était vraiment.
C'est pas la Xantia ?
J'ai eu mon père a eu la Xantia et ensuite la Xara.
D'accord. Oui, des belles Citroën, quoi.
Oui.
Ouais, non, on est sur des belles Citroën. Les liens vers vos dates de spectacle et vos vidéos sont retrouvés sur la page de l'émission.
Mousse-mousse, David Castello-Lopez sur France Inter.
C'est l'heure de la troisième manche de Mousse-mousse, dont le thème est... Les impôts. Alors on le disait, il y a quand même un certain pouvoir d'achat autour de cette table, donc c'est qu'elle vous est tous concernés, je crois, par les impôts. Il n'y a personne autour de cette table qui est non imposable. Je pense même pouvoir dire certainement qu'aucune personne autour de cette table n'est dans la première tranche d'imposition. C'est une présomption, c'est des conjectures, peut-être que je me trompe. Première question, je vous sens un silence de mort.
On attend.
Ça, tu sais, on n'a pas du tout envie d'en parler.
Je savais pas qu'il y avait une première tranche.
Vraiment, c'était glacial. Première question, qui est donc la question numéro 9, sur les impôts. Depuis quand, à votre avis, ça existe, l'impôt sur le revenu en France ? Réponse numéro 1, ça existe depuis 1710. Réponse numéro 2, depuis 1830. Réponse numéro 3, depuis 1916. Éloi Spinel.
Je dirais 1916.
Et moi, je dirais 1830.
Eh bah, ben, c'est Éloi Spindler qui a la bonne réponse.
En revanche, 1900. J'ai quand même l'impression d'appuyer avant lui à chaque fois et que c'est.
Là, j'ai clairement, là, j'ai vraiment fait attention et c'est clairement.
C'est triste d'être comme Alexis.
Ouais. Ouais.
Ah, oui. Pardon.
C'est triste d'être comme vous.
Oui. C'est vrai que c'est, il vaut mieux être comme nous, vraiment à tous les points de vue.
À la quatrième tranche.
Exactement. C'est 1916. C'est pas si vieux que ça quand même. Hein. Moi j'aurais dit que ça aurait été que c'était vachement plus vieux
oui,
que
même
ça.
J'aurais dit l'impôt sur le sel. Mais c'est pas l'impôt sur le revenu.
La dîme. Ouais non. J'ai pas dit depuis quand ça existe les impôts en général.
Ah, oui,
mais c'est l'impôt sur le revenu. Avant les gens ils payaient pas du tout l'impôt sur le revenu et c'est vrai que c'était un avantage. À l'époque, mais après, il y avait d'autres inconvénients.
Enfin, c'était pas un avantage, sachant qu'il n'y avait pas de comparaison, en fait. Quoi.
Oui, mais enfin, par rapport à maintenant, nous, on peut comparer, on dit que c'était mieux. Mais il y avait d'autres trucs moins bien.
Il n'y avait pas de route et pas de
voilà, peut-être. Voilà. Mortalité infantile, les enfants décèdent, tout ça, mais pas d'impôt sur le revenu.
Moi, c'était beaucoup moins précis aussi ce que les gens gagnaient. Enfin, c'était beaucoup moins traçable.
Tout à fait, c'était ça qui rendait la chose difficile. Il y avait un truc, à un moment, sous l'ancien régime, où les gens ils disaient il y a ça et ça qui t'appartient, tu dois sans doute gagner tant, bon, on estime que tu vas devoir payer tant. Mais ce n'était pas vraiment un impôt sur le revenu. Merci beaucoup pour votre collaboration sur cette question sur l'impôt sur le revenu. Question numéro 10. Lequel de ces impôts n'a jamais existé ? Réponse 1, l'impôt sur les fenêtres.
Il existe.
Non, c'est pour être sûr de...
Okay, pardon.
J'ai buzzé avant. Mais on veut bien la fin des...
Là, il faudrait une pénalité.
On veut bien la fin.
Vraiment, c'était dans les règles.
De manière...
Moins 4 points.
Moi, j'attendais vraiment que tu poses toutes tes questions. Même tout à l'heure sur le chien, j'ai pas buzzé parce que je pensais que tu n'avais pas fini la question et qu'il fallait attendre la fin du son du chien.
Eh ben, vous savez quoi? Je me réserve le droit de vous enlever un point si à un moment j'ai envie. Ok? C'est lamentable ce que vous avez fait.
Ça ne vous honore pas, Éloi.
Fait, David, bravo.
On a failli le faire en même temps, en plus. Ouais. Donc, on peut pas s'en vouloir. Fenêtre.
Donc, l'impôt sur. Réponse 1. L'impôt. On reprend la petite jingle en dessous, hein, la petite nappe. L'impôt sur les fenêtres. Réponse 2. L'impôt sur les célibataires. Hey. Réponse 3, l'impôt sur les barbes. Réponse 4, l'impôt sur les pianos. Et réponse 5, l'impôt sur la joie.
L'impôt sur la joie n'a jamais existé.
Qui a
parce que là, c'est
pour
moi.
Pour moi, c'était exactement en même temps. Est-ce qu'on...
Pour moi,
C'est Lison.
Surtout si elle s'est trompée.
Elle a l'air de nous faire une faveur, mais on a tapé avant.
C'est un peu comme la VAR. J'ai demandé la VAR, si vous voulez. Et la VAR a dit, c'est Lison. Moi, je crois la VAR. C'est effectivement l'impôt sur la joie. Très peu probable, un impôt sur la joie. L'impôt sur les fenêtres, il a existé en France, dans plein de pays. On comptait le nombre de fenêtres sur les immeubles. On disait, toi, t'as 7 fenêtres, c'est 7000 balles. Et du coup, qu'est-ce qu'ils faisaient, les gens, à votre avis?
Ils manquaient de joie.
Ils muraient leurs fenêtres et du coup ils vivaient dans le noir. Ils disaient ah mais au moins je paye moins d'impôts. C'est un petit peu triste.
Mais il y a un pays, c'est pas en Grèce qu'on paye à partir du moment où on a un toit.
Oui, souvent ils laissent les barres de béton armé dépasser comme ça. Au Portugal aussi, non?
C'est mon pays.
Vous savez que pour les bateaux, sur les radars, ils sont identifiés en taille, en termes du nombre de fenêtres. Si bien qu'il y a beaucoup de bateaux de guerre qui n'ont pas de fenêtres pour apparaître plus petits sur les radars. Oh. Ça n'a rien à voir, mais je trouvais cette information.
Mais c'est très bien, c'est connexe. C'est ce qu'on appelle une anecdote connexe.
C'est très mousse-mousse.
Ouais, c'est complètement mousse-mousse. Et en fait, il sait qu'il marque. Parce que je peux aussi lire.
Tout est faux, là.
Non, comme on a fait toutes ces questions vraiment très précisément, on s'est embêté à les vérifier. Donc non, ce n'est pas faux. Il y a l'impôt sur les célibataires, ça existait aussi dans l'Italie fasciste. Vous faites des enfants, pour les hommes. Vous faites des enfants, sinon vous raquez. Okay, c'est machin. L'impôt sur les barbes, aussi, en Russie et en France. En Russie, c'était un peu pour dire, il faut que ce soit un privilège de porter une barbe. Il voulait que les gens portent moins de barbe. Donc, tu peux être barbu, mais tu payes. Quoi.
Et des gens se muraient la tête pour ne pas payer cet impôt-là.
Et impôt sur les pianos, ça existait.
Bah, je ne vais pas être très étonnée, oui.
Mais oui. Enfin, oui. Enfin, parce que, et pourquoi pratique pour les impôts le piano? Parce que...
Tu ne peux pas le dissimuler rapidement. Quoi.
Exactement, ça fait du bruit et c'est visible. Et deuxièmement, c'est une marque signe extérieur de richesse. C'est-à-dire que tu as un piano, tu es probablement blindé. Voilà. Mm-hmm. En tout cas, dans ces années-là, merci beaucoup.
Ça couplait avec un chien du Tibet.
Mais son alarme t'aurait raqué fort.
Franchement.
Je ne sais pas combien tu as de fenêtres sur rue.
Question numéro 11. Quel a été le taux d'imposition, pardon, j'ai un petit peu fourché dans ma voix, quel a été le taux d'imposition le plus élevé jamais appliqué en France? Il n'y a pas de choix multiple.
66%.
Non, mauvaise réponse de Rossignol.
68%.
Mauvaise réponse d'Alexis Rossignol.
Est-ce que c'est plus ou moins?
C'est moins, c'est moins.
C'est plus. 55%.
Non.
75%.
Non.
Ça, c'était Hollande qui voulait ça.
Vous brûlez.
80%.
Non.
77%.
Non.
78%.
78%. Non.
76%.
Non.
81%.
Combien ?
74%.
81%.
Non.
82%.
76%.
Vous chauffez.
84%. 85%.
86%.
Non.
88%. Non. 83%.
79%.
90%.
90%. Excellente réponse d'Alexis Rossignol.
Mais pourquoi ?
La réponse la plus laborieuse de l'histoire de l'humanité, de l'histoire de tous les jeux radiophoniques ou télévisés. Mais bonne réponse, Alexis Rossignol. Alors évidemment, c'est un taux marginal. Hein. Vous savez ce que c'est le taux marginal. Vous êtes calé en tranche
d'imposition. C'est-à-dire qu'on n'impose pas la totalité du revenu,
oui,
mais la dernière tranche à 90%.
Exactement. Belle connaissance des tranches d'imposition chez Maison Daniel. voilà. Je sais pas. Vous gagnez tout ce que vous gagnez au-dessus de 1 million d'euros. Par exemple, si vous gagnez 1 100 000, et ben vous êtes imposé à 90% sur les 100 derniers milliers d'euros. Donc, vous, sur ces 100 000 euros, vous payez 90 000 euros. Voilà. Très bonne réponse d'Alexis Le Rossignol, bravo.
Bah oui.
Et de Lison Daniel aussi.
Mais c'est lui qui a l'explication, Lison.
Ah pardon.
Mais moi j'avais la réponse. C'est ce qui compte, non ?
Toi, la mauvaise main qui en
est. Non, c'est vrai que les fioritures qu'il y a eu autour de cette bonne réponse et qui étaient très très bien aussi venaient de Lison Daniel.
C'est moi, il fait chaud.
Question numéro 12, c'est la dernière question. Bien sûr,
un récapitulatif des points.
Est-ce qu'on, en régie, on peut me dire ?
Je crois qu'on a de l'avance. Hein.
6-5 pour Alexis, voilà, et Lison. Donc, ils ont pris la main. On s'y attendait si peu.
Moi, je ne veux donner qu'une seule bonne réponse, c'est la dernière.
Ok.
Tu veux que je bosse pour toi ?
On leur laisse.
Oui, je pense.
Donc là, c'est la dernière question de cette manche. Hein. C'est la question blind test, puisque chacune des manches se termine par un blind test. Et cette question, c'est, je vais vous faire entendre des agriculteurs allemands qui manifestent.
En colère.
Voilà, ils sont en colère.
Ils sont tombés de la monnaie avec un chien.
Ils ne sont pas contents. Non. Contre quoi manifestent ces agriculteurs allemands ? On écoute le son. Ok, donc choix multiple. Ils manifestent contre la taxe dite salade, hein, la fameuse Salatsteuer. Ils manifestent réponse 2 contre la hausse des taxes sur le diesel ou ils manifestent réponse 3 contre la taxe méthane appliquée aux flatulences des vaches.
Ah bah, la dernière, méthane. La flatulence. Ah.
Attends, c'est Lison. Donc Lison.
Je suis désolée.
Ouais.
La taxe méthane.
Non, mauvaise réponse.
Ah, c'est
Daniel.
La cloche qui m'a...
J'aurais jamais dit ça, de toute façon.
Oui, donc...
Je dirais sur les salades.
Sur les salades, non plus.
Ah ben.
Deuxième réponse.
Le diesel.
Qui était, c'était une hausse des taxes sur le diesel, un truc assez classique.
Ouais. Alors,
vraiment, ouais, les deux autres.
Ouais, c'est très
simple. Je dis le méthane parce qu'il y avait la cloche des vaches.
Ah,
mais oui, manifestation.
Oui. Mais oui, c'est vrai, alors que c'était juste une façon pour eux de faire du
bruit. Bah oui, avec ce qu'ils
avaient sous la main. Avec ce qu'ils avaient sous la main. Bravo. Et donc vous rétablissez l'égalité et donc vous remettez de l'enjeu. Vous remettez même plus d'enjeu que cela, puisque vous êtes à égalité. Oh là là, truc de malade mental. Vous êtes à égalité. C'est la fin donc de cette troisième et dernière manche de Mousse-Mousse. Vous êtes à égalité et donc il va falloir trouver une question pour vous départager, mais cette question, elle viendra seulement après Parcelles sur France Inter.
You got me feeling like a moon, inviting. You got me feeling.
C'était You Got Me Feeling de Parcelles sur France Inter. C'est le tout nouveau single de Parcelles, annonciateur de leur troisième album Loved, attendu pour le 12 septembre 2025.
David Castello-Lopez, Mousse Mousse sur France Inter.
Alors, on se retrouve dans une situation là où on est, vous êtes à égalité. Vous avez été, voilà, vous avez été aussi brillant l'une équipe que l'autre.
Oui, le lapsus.
Voilà. Exactement. Alors, j'ai envie de faire. On va compliquer la chose. On va faire deux questions pour vous départager. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est la suivante. Quel est le vrai nom de Miu Miu? L'actrice française.
Henri, Eri. Quelque chose, Eri.
Sylvette Eri, exactement. Sylvette. Excellente réponse de Vincent Delerme. Bravo, ça fait un point de ce côté-là.
Enfin.
Et maintenant, il faudra une troisième question, hein, si jamais ils sont égalité. Deuxième question de départageage. Pour l'instant, Vincent Delerme et Loa Spindler mènent. On va faire rentrer dans le studio l'attaché de production de cette émission, de Mousse Mousse, qui s'appelle Marius. Marius, bonjour. Vous êtes là, vous avez un micro à la main.
Bonjour.
Donc vous pouvez vous exprimer. regardez bien, s'il vous plaît, Marius. Regardez-le bien. Et,
on doit baiser voilà.
Putain, j'ai entendu on pas du tout ça. J'ai pas du tout entendu ça. J'ai fait genre... j'ai fait, mais c'est pas votre habitude. vous devez buzzer, tout à fait. Et donc, analysez bien, vraiment, regardez Marius dans toute sa splendeur qu'il y a devant vous. Et maintenant, la question est la suivante. Quel âge a Marius?
24 ans.
Mauvaise réponse.
27 ans.
Mauvaise réponse.
22 ans.
Mauvaise réponse.
21.
Mauvaise réponse.
19 ans.
Mauvaise réponse.
29.
Mauvaise réponse.
31 ans. 25.
Mauvaise réponse. 25 ans.
31 ans. 25 ans.
25 ans.
Qui a dit 25 ans, c'est vous? Bonne réponse d'Éloi Spindler.
Oh, non,
c'est Vincent.
Et Vincent Delerme, bravo. Marius, un mot à dire. Vous avez été, parce que vous pouviez être flatté qu'on vous donne 5 ans de moins ou
le
content.
31 à la fin.
Ouais, on était allé de 19 à 31.
Il fallait trouver la réponse. Ouais.
On a commencé à 24. Reconnais que c'était quand même juste.
Il y a un petit air de Panayotis Pasco, non?
C'est vrai.
Est-ce que vous l'avez vu ou pas?
Ce qui est un gros compliment, quoi. Bravo pour votre visage, Marius. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, on a les grands gagnants. Comment?
J'ai juré.
Donc là, ça y est, on a perdu nous.
Oui, donc
voilà. De manière assez nette.
C'est fou.
J'espère que je vais pas rater mon train en plus de ça.
La victoire a été totale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de nouvelle égalité. Ouais, ouais. Bravo, Éloi Spindler et Vincent Delerme. Vous avez humilié l'autre équipe et c'est ça qu'on vous demandait. Vous avez accumulé le plus de mousse. Vous êtes les rois de la mousse aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un moment de cette émission, de cette petite heure qu'on a passée ensemble, que vous n'oublierez jamais ou alors dans longtemps?
Je pense pas.
Ouais. C'était pas très bien. C'était globalement pas très bien.
Si, l'histoire, moi, des impôts, la tranche marginale, je ne savais pas, en fait. J'ignorais.
Moi, de vous imaginer faire tomber de la monnaie comme ça par terre.
Ouais.
Et d'enregistrer le son en plus.
Comment t'étais habillé quand t'as fait tomber de la monnaie comme ça?
De la même façon, c'était aujourd'hui.
D'accord.
Alors, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que bien sûr, il y a un trophée qui est remis au maître moussier du jour. Ce trophée, on peut peut-être le décrire aux auditeurs, parce qu'il y a des gens qui regardent sur YouTube, mais les autres écoutent. C'est une planche de bois sur laquelle se trouve un petit bloc, un petit parallélépipède de mousse.
On n'a pas la même base. Moi, j'ai du.
Ah oui. Toi, t'as du médium et toi, t'as du boulot.
Du médium, du 18. C'est du 18.
Excellente connaissance de l'aggloméré.
Mais c'est vrai.
Mais c'est totalement vrai.
C'est totalement vrai. Il y a du médium à droite et du boulot à gauche.
C'est génial. Donc voilà. Et alors, on pourrait peut-être mettre une étiquette dessus.
Non, je crois pas. C'est beau comme ça.
C'est beau comme ça.
C'est brut.
D'accord. Vous mettrez une petite 10 mots.
Bravo. Alors, dans les deux premières éditions de Mousse Mousse, il y a des gens qui ont laissé leur trophée tellement ils nous méprisent. Si vous pouvez. Je sais pas.
Peut-être ça a déjà été au
celui de Clara Luciani,
ça. Les deux restants de deux éditions différentes. C'est pour ça que la base est différente.
Vous n'êtes pas obligé de le mettre dans votre salon parce que c'est pas.
C'est fou d'oublier ça.
Voilà. Si vous le jetez, jetez-le juste peut-être après en sortant de la maison de la radio et pas tout de suite.
Est-ce que les mousses et le bois, ça va dans la même poubelle?
Je crois que oui. Tout ce qui n'est pas organique.
Pour moi, je me tourne vers la spécialiste des matériaux.
Oui, voilà, exactement. Vous avez des belles connaissances en matériaux, vous devez savoir. Vous êtes un peu.
Il y a un lot de consolation.
Il y a un lot de consolation tout à fait pour les gens qui n'ont pas gagné, qui vont être humiliés.
Triste, hein. Oh, dis donc.
Et c'est du pain de mie industriel. Marc, voilà. Parce que autant.
Ah, mais il a fait un sketch sur les gens qui ont enlevé le tour du pain de mie, non ?
Merci.
Oui, c'est vrai que je me demande comment on fait du pain de mie sans.
Alexis
sans
de Rossignol. Ah, mais ce n'était pas une référence.
Est-ce qu'il l'enlève après ?
Oui, je pense qu'il l'enlève après, ouais. Malheureusement. Et il donne la croûte pour faire de la chapelure, probablement.
Ça me fait très plaisir.
C'est vrai ?
Ouais, parce que tu sais, j'ai une kermesse juste après.
C'est vrai ?
Ouais, et je vais pouvoir.
Penses-tu qu'on en a besoin de deux?
Bah, peut-être deux.
Bah, peut-être ils ont besoin de mousse.
Alexis Le Rossignol ne veut pas son pain de mie.
Mais c'est très kermesse.
Mais ça fait complètement kermesse. C'est vrai que c'était. Alors c'est vrai que c'est plus glorieux hein, le truc de mousse là. Nettement. Mais c'est quand même ça se mange beaucoup moins. Mm. Voilà, ça peut pas s'amener à des kermesses.
C'est très bien conclu.
Merci beaucoup à tous. Vincent Delerme, je rappelle que vous serez en concert à la Cigale à Paris en mars 2026 et que votre 8e album vient de sortir. Éloi, vous avez toujours deux restaurants Colère et Orgueil. Et un troisième qui va s'ouvrir bientôt, dont on fait le nom. Lisons votre actualité.
Toujours pas de resto ?
Toujours pas de resto, enfin, bientôt peut-être.
Ouais, votre actu, c'est quoi ?
Là, je suis dans la grâce. Non, j'ai un film qui va se tourner là à la rentrée, mais que j'ai écrit, mais que, oui. Que je ne réalise pas.
Oui.
Je suis en train d'écrire une pièce de théâtre et j'ai un petit livre qui sort qui s'appelle Comment avoir toujours raison avec les enfants.
Mmh. Oh, très bien.
Mmh. Eh ben, ouais, en octobre, je crois.
On va acheter immédiatement le livre avec notre argent. Et Alexis, enfin, vous êtes en tournée dans toute la France.
Exactement.
Avec votre spectacle. Et cet été, avec votre.
Sur les routes. Et j'ai écrit un petit bouquin aussi qui va sortir à Noël qui s'appelle Petite philosophie. Sophie du flan.
Oh.
Parfait. À la technique, il y avait Thomas Allard à la vidéo, Benjamin Dorin et Tilley Ravut. L'équipe, les questions ont été préparées par Luc Yadaden, mon ami depuis 2001, et moi-même. Paul Laporte était à la réalisation, Marius Sériez est notre attaché de production et notre programmatrice musicale Juliette L'Orphelin. Merci beaucoup à tous. Vous avez été exceptionnels, même les perdants, vous avez été très bien.
Un peu moins.
Merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine, samedi, pour une nouvelle édition de Mousse Mousse.